les contes de l'Alhambra, économie domestique. Il est temps de donner quelques idées de mes arrangements domestiques dans cette singulière demeure. Le palais de l'Alhambra est confié aux soins d'une bonne vieille fille nommée Doña Antonia Molina, mais plus connue sous le nom familier de Tia Antonia, tante Antonia. Elle est chargée de tenir les salles et les jardins en bon ordre et de les montrer aux curieux. En récompense, elle perçoit les offrandes des visiteurs et dispose de tout le produit des jardins, sauf le tribut de fruits et de fleurs qu'elle envoie de temps à autre au gouverneur. Cette bonne femme habite un coin du palais avec sa famille, composée d'un neveu et d'une nièce, enfants de deux de ses frères. Le neveu, Manuel Molina, est un jeune homme d'un caractère solide, d'une gravité vraiment espagnole. Après avoir servi quelque temps en Espagne et en Amérique, il a quitté l'état militaire pour étudier la médecine dans l'espoir de devenir un jour médecin de l'Alhambra, place qui rapporte au moins 140 piastres par an. Quant à la nièce, c'est une petite Andalouse fraîche et dodue, aux yeux noirs, au visage riant, qui a nom Dolores, et dément complètement par son humeur gaie la tristesse de ce nom. Cette jeune personne est l'héritière déclarée de tous les biens de sa tante, consistant en quelques bicoques de l'intérieur du fort, dont la location produit environ 150 piastres. J'avais à peine passé quelques jours dans l'Alhambra quand je découvris qu'un amour discret unissait le sage Manuel et sa vive cousine, et qu'ils n'attendaient pour voir leurs vœux comblés que la dispense du pape, nécessaire à cause de leur parenté, et le diplôme qui devait donner au futur le titre de docteur. Je traitai avec Madame Antonia pour mon logement et ma nourriture, et il fut convenu que la gentille Dolores prendrait soin de mon appartement et me servirait à table. J'avais de plus à mes ordres un grand garçon bègue, à cheveux roux, nommé Pépé, qui travaillait ordinairement au jardin, et m'aurait volontiers servi de domestique, mais Mateo Jiménez, le fils de l'Alhambra, l'avait prévenu. Cet alerte et officieux personnage était parvenu, je ne sais comment, à s'attacher à moi depuis notre première rencontre, à se mêler à tous mes plans, jusqu'à ce qu'il fût enfin régulièrement installé chez moi comme valet de chambre, cicerone, guide, garde, écuyer, historiographe. J'avais été obligé d'améliorer l'état de sa garde-robe pour qu'il ne fît pas honte à son maître dans ses diverses fonctions. Il avait donc jeté son vieux manteau brun, comme un serpent quitte sa vieille peau, et se montrait dans la forteresse avec une veste et un chapeau andalou très propre, au grand étonnement de ses camarades. Le principal défaut de l'honnête Matteo est un zèle surabondant, un désir inquiet de se rendre utile qui va jusqu'à l'importunité. Comme il sent bien qu'il m'a presque forcé à le prendre à mon service et que mes habitudes simples et tranquilles font de sa place une sinécure, il met son esprit à la torture pour trouver moyen de devenir nécessaire à mon bien-être intérieur. Je suis en quelque sorte victime de son empressement, et ne puis mettre le pied sur le seuil du palais pour aller faire un tour dans la forteresse sans qu'il vole à mes côtés pour m'expliquer tout ce que je pourrais voir. Et si je m'aventure à me promener sur les collines voisines, il insiste pour me suivre comme garde, bien que je sois intimement convaincu qu'il aurait plutôt recours à la légèreté de ses jambes qu'à la force de son bras en cas d'attaque. Toutefois, ce pauvre garçon est quelquefois amusant. Naïf, toujours de bonne humeur, babillard comme un barbier de village, il est au courant de tout le commérage de la place. Mais ce qui fait son orgueil, c'est le trésor de connaissances locales qu'il possède. Il n'existe pas une tour, pas un portail, pas une voûte de la forteresse qui ne lui fournisse une histoire merveilleuse à laquelle il ajoute une foi implicite. La plupart de ses histoires lui viennent de son grand-père, petit tailleur, bavard et conteur, qui vécut près de 100 ans et ne sortit que 2 fois de l'enceinte de la forteresse. Pendant près d'un siècle, sa boutique fut le rendez-vous d'une coterie de vénérables commères qui passaient là une partie de la nuit à parler des anciens temps, des événements merveilleux et des mystères de la place. Toute la vie, les actions, les pensées de ce petit tailleur historien avaient été renfermées dans les murs de l'Alhambra. Ces murs l'avaient vu naître, grandir, vieillir. Il y trouvait son existence, il y mourut et y fut enterré. Heureusement pour la postérité, ces traditions ne sont pas mortes avec lui. L'authentique Matteo, quand il était petit garçon, écoutait avec délice les narrations de son grand-père et des commères qui formaient sa société. C'est ainsi qu'il ramassa dans sa tête un trésor de connaissances vraiment précieuses sur l'Alhambra, connaissances que l'on ne trouve dans aucun livre et qui sont réellement dignes de l'attention de tout voyageur curieux. Tels sont les personnages qui contribuent à rendre ma vie domestique confortable dans l'Alhambra. Et je doute qu'aucun des souverains chrétiens ou musulmans, mes prédécesseurs dans ce palais, aient été servis avec plus de fidélité et joui d'un empire plus paisible. Aussitôt que je suis levé, Pépé, le garçon jardinier bègue, m'apporte des fleurs fraîchement cueillies que la main adroite de Dolores, qui met une sorte d'orgueil féminin à la décoration de ma chambre, arrange ensuite dans des vases. Je prends mes repas où bon me semble, tantôt dans l'une des salles, tantôt sous les portiques de la cour des lions, entouré de fleurs et de fontaines. Et lorsqu'il me prend envie de courir la campagne, mon guide infatigable me conduit aux retraites les plus romantiques des montagnes ou des vallées adjacentes. Et j'apprends sur chacune de ces places quelques merveilleuses aventures dont elle fut le théâtre. Malgré mon goût pour la solitude, je romps quelquefois l'uniformité de la mienne en passant quelques moments dans le petit cercle de famille de Doña Antonia, ordinairement rassemblée dans une chambre mauresque qui sert de cuisine et de salon. Une cheminée grossièrement construite dans un coin de la pièce a sali les murs par sa fumée et presque effacé les arabesques. Une fenêtre à balcon donnant sur la vallée du Darro, laisse pénétrer la brise du soir. Et là, je prends mon frugal repas de fruits et de lait, tout en causant avec ces bonnes gens. On trouve toujours chez les Espagnols ce qu'ils appellent de l'esprit naturel. Aussi, leur conversation n'est-elle jamais dépourvue d'intérêt et d'agrément, quelles que soient leurs conditions et leur éducation. Ajoutons à cela que leurs manières ne sont jamais basses, grâce à une certaine dignité inhérente à leur caractère. La bonne Tia Antonia est une femme d'un esprit juste et solide, quoique sans aucune espèce de culture. et la jolie Dolores, qui n'a pas lu 4 volumes dans tout le cours de sa vie, offre un piquant mélange de naïveté et de bon sens, et m'étonne souvent par ses reparties ingénieuses. Quelquefois, le neveu nous lit le soir une des vieilles comédies de Calderon ou de Lope de Vega, dans le but évident d'instruire sa jeune cousine en l'amusant. Mais à sa grande mortification, la petite personne s'endort généralement avant la fin du premier acte. De temps à autre, la tia Antonia reçoit ses humbles amis et dépendants, les femmes des soldats invalides et les habitants du hameau. Tous montrent les égards les plus respectueux à l'intendante du palais et lui font leur cour en lui rapportant les nouvelles de la place et les bruits qui circulent dans Grenade, quand le hasard les a fait parvenir jusqu'à eux. J'ai souvent appris dans ces caquets de veillée des faits curieux qui m'ont éclairé sur les mœurs du peuple espagnol et des particularités intéressantes sur les usages locaux. Qu'on me pardonne le récit de ces simples divertissements qui paraîtra peut-être insignifiant à ceux qui ne sentent point le charme que leur donnent à mes yeux les lieux où ils se passent. Je foule un sol enchanté, entouré de souvenirs romantiques. À peine sorti de l'enfance, quand je parcourus sur les rives de l'Hudson une vieille histoire des guerres de Grenade, cette ville devint l'objet de mes rêves. Et depuis ce moment, je me suis mille fois transporté en imagination dans les salles de l'Alhambra. Que je vois ainsi un château en Espagne, et bien véritable château en Espagne, se réaliser, c'est ce que le témoignage même de mes sens peut difficilement me persuader. Suis-je en effet dans le palais de Boabdil? Est-ce bien cette Grenade, si fameuse dans les annales de la chevalerie, que j'aperçois de ce balcon élevé? Oui, ce n'est point un songe. Je parcours à mon gré ces chambres orientales. J'entends le murmure des fontaines. Je respire le parfum des roses. Je cède à l'influence de cette atmosphère embaumée. Je suis tentée de supposer que je suis dans le paradis de Mahomet et que la fraîche et mignonne Dolores est une des houris aux yeux brillants destinés à faire le bonheur des vrais croyants.